Allô?
Allô?
Oui?
Lambert Wilson?
Oui, c'est moi.
Remontez vite!
Et si tu trouvais un autre travail, tu pourrais rester?
Y a rien à faire.
Vas-y, dis ce que tu penses, toi, vas-y.
Mais non, je suis pas au courant de tout, je préfère pas m'engager, franchement.
Il veut pas s'engager de nier comme ça.
Du cinéma
dans tous ses états.
Une nouvelle émission mensuelle.
Scabreuse, dangereuse, tumultueuse et rêveuse.
Bonjour. Alors aujourd'hui, nous prenons la mer. Expression de marin. Mais comme dit un chanteur que Ben connaît bien, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Le Grand Bleu, cela doit vous parler. Un film de 1988, c'est pas tout jeune, hein, mais il a marqué son époque. On peut encore le visionner car on le trouve à la Nouvelle Dimension, et si on a un lecteur DVD, une lecture à l'ancienne quoi. Ce film peut nous faire du bien en cette période internationale troublée. Si trois personnages principaux, un Français, un Italien et une Américaine apparaissent, je dirais volontiers que les protagonistes les plus importants sont la mer et les dauphins. Ces dauphins, des êtres exceptionnels dont les humains parfois pourraient s'inspirer. Le Grand Bleu est un film de Luc Besson, qui a aussi réalisé entre autres Nikita, Léon, Le Cinquième Élément, Jeanne d'Arc, Subway. Jean-Marc Barr joue le rôle de Jacques Mayol et Jean Reno, celui de Enzo Molinari. Jacques Mayol et Enzo Molinari, qui ont existé, étaient à l'époque des apnéistes qui descendaient à plus de 100 mètres de profondeur avec une seule goulée d'air. Attention, le film dure 2h40. Il va falloir prendre une bonne respiration. La musique, très présente, va nous permettre de ne pas voir le temps passer. Elle va aussi m'aider à vous parler de ce film. La BO, la bande originale, est signée Eric Serra. Alors Eric Serra, qui est né en 1959, est bassiste et compositeur. Il crée la plupart des musiques de films de Luc Besson. Une participation emblématique qui lui vaut de multiples prix, dont celui du César de la meilleure musique originale. Pour lui, la musique, c'est avant tout de l'émotion. Et c'est justement pour ressentir au plus proche les émotions des deux protagonistes du film qu'il s'est immergé en plongée sous-marine dans l'océan pour en comprendre et ressentir les sons uniques. Multi-instrumentiste aux influences exigeantes et diverses, Jaco Pastorius, Judd McLaughlin, Jeff Beck, Eric Serra se fait très jeune un nom de compositeur en travaillant aux côtés de Didier Lockwood ou Jacques Higelin. Et pour la petite histoire, j'ai eu la chance d'être à un concert de Jacques Higelin au Casino de Paris avec entre autres musiciens Eric Serra comme bassiste. C'était en 1983, ça ne nous rajeunit pas. Bon, revenons à ce Grand Bleu qui, en fait, commence en noir et blanc. Nous survolons la mer vers une île grecque en 1965 et nous allons faire la connaissance de Jacques et Enzo, enfants qui déjà vivent avec la mer, y plongent et se jaugent entre eux et avec elle. De belles images sous-marines où l'on voit Jacques aller nourrir une murène. On fait aussi connaissance avec son père et son oncle qui nous donne quelques éléments des origines de l'enfant. Nous sommes en Sicile en 1988, donc 23 ans plus tard, et le film est passé à la couleur. Roberto apparaît, c'est le petit frère d'Enzo. Et si l'on rembobine, on l'aperçoit enfant derrière son frère lorsque Jacques et Enzo discutent sur une pièce à aller chercher au fond de l'eau. Enzo déjà dit à son frère « Roberto, mio palmo ».
Tu vas changer de bagnole?
Non, la faire repeindre.
Mais Giuseppe te le fera pour 25 dollars.
Alors dis-lui d'en passer demain.
Sérieusement, qu'est-ce que tu vas acheter?
Un rosaire pour maman. Une robe pour Angélique. Et pour toi, un costume sur mesure. La plus importante.
Quoi?
Trouve-moi le petit français. Trouve-moi Jacques Maillot.
Il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de
Les deux frangins ont réussi à extorquer 10 000 dollars au propriétaire d'un cargo échoué. Enzo a réussi à sauver un matelot coincé dans le fond du bateau. Ensuite, la musique est différente car nous voici en Amérique du Sud, à 4300 mètres d'altitude, où l'on découvre Johanna, agente d'assurance, venue faire un constat sur l'accident d'un camion coincé au fond d'un lac gelé. C'est dans cette station scientifique qu'elle va croiser Jacques Mayol. Celui-ci est l'objet de recherches encadrées par le professeur Lawrence qui étudie la particularité de Jacques à s'adapter sous l'eau comme les mammifères marins. Et c'est ici qu'on peut imaginer un début d'idylle entre lui et Johanna.
Je n'arrive pas en 5 minutes.
T'as la main. Darjeeling. Vous m'avez manqué, canaille.
En train de barboter, 20 ans après, je te retrouve encore dans l'eau. Qu'est-ce que tu ferais? Tu t'entraînes?
Ouais.
Bon. T'as vu le costard? C'est la classe. Tu sais que je suis champion du monde?
Oui, je sais.
C'est le championnat du monde dans 10 jours à Taormina. Je t'y invite. Ton billet.
Pourquoi?
Parce que tu meurs d'envie de me battre.
C'est toi le meilleur.
C'est ce qu'on verra.
Enzo a retrouvé Jacques, mais Johanna aussi. Je vous laisse le soin de découvrir comment Johanna s'organise pour retrouver Jacques, dont elle est amoureuse. Comment Enzo accueille Jacques? L'apparition de la maman, accompagnée de Roberto, vous vous rappelez, le petit frère? Car Jacques a accepté de participer aux compétitions de plongée. Alors nous voici à la remise des prix d'un nouveau record de plongée où nous retrouvons nos trois compères, Jacques, Enzo et Johanna, qui commence à être bien alcoolisé. Un moment épique que je vous invite à partager lorsque Enzo et Jacques plongent au fond de la piscine pour y boire du champagne. La musique accompagne parfaitement la scène. La compétition entre Enzo et Jacques va commencer. Nous sommes au large, sur le bateau organisateur, et assistons aux préparatifs de Jacques et de toute l'équipe du bateau. Écoutez, vous verrez.
Ceux-là, qu'est-ce qu'ils font?
Ce sont nos médecins. Ils vont l'atteindre à 65 mètres.
Et lui?
Lui, il va descendre encore à plus de 110 mètres. Plonge avec un mélange d'hélium-oxygène. L'air comprimé, c'est beaucoup trop dangereux.
Thank you.
Par ailleurs, l'idylle entre Johanna et Jacques prend forme. Mais à l'issue de leur union nocturne, Jacques est appelé par un dauphin. Nous assistons à une scène qui nous donne de magnifiques images au clair de lune et nous montre un rapport carrément amoureux entre Jacques et le dauphin.
Est-ce que ta nuit a été agréable?
Oui. J'étais avec le dauphin.
Toute la nuit?
Oui.
Avec un dauphin?
Oui.
Je vais repartir à New York.
Bon. C'est pas simple, hein, l'amour pour Jacques. Il en souffre et ne sait pas comment exprimer ses difficultés. Alors, Enzo, pour l'aider à changer ses idées, l'invite à un travail de plongeur sur une plateforme. Ne ratez pas cette séquence parce qu'elle est vraiment très drôle. La relation amoureuse se poursuit entre Jacques et Johanna, mais à distance.
Allô?
Jacques? C'est Johanna.
Ça va?
Good. J'ai été virée.
Tu sais, on avait un boulot avec Enzo, on s'est fait virer aussi.
Ah, c'est vrai. C'est étrange. Oh Jacques, parle-moi encore.
C'est difficile, tu sais, je ne sais pas quoi dire. Tu es si loin de moi.
Raconte-moi une histoire.
Une histoire? Tu sais que... ce qu'il faut faire pour vivre au milieu des sirènes.
Non. Dis-moi.
Tu descends au fond de la mer très loin. Si loin que le bleu n'existe plus. là où le ciel n'est plus qu'un souvenir. Une fois que tu es là, dans le silence, tu y restes. Et si tu décides que tu veux mourir pour elle, rester avec elle pour l'éternité, alors, elles viennent vers toi et jugent l'amour que tu leur portes. S'il est sincère, s'il est pur, et si tu leur plais, alors elles t'emmèneront pour toujours.
J'adore ton histoire.
Revenons à la compétition qui ne peut pas s'arrêter sans tragédie, c'est bien connu. Enzo va plonger jusque 115 mètres. Les différents concurrents de plusieurs pays ne peuvent pas battre le record et se mettent en échec les uns après les autres sous les regards amusés d'Enzo et Roberto. Nous assisterons même à la non-plongée d'un Japonais qui s'évanouit avant. Alors, bien sûr, Jacques va descendre jusque 120 mètres avec près de 5 minutes d'apnée et Enzo ne le supporte pas.
Ça va être un très grand jour demain.
Mmh.
ce bruit de moteur est celui de l'arrivée d'un Zodiac avec le professeur Lawrence sur le bateau des compétitions. Vous vous rappelez du professeur Lawrence qui accompagne Jacques dans ses recherches scientifiques? Il annonce qu'on ne peut pas plonger plus profond sans risque. Enzo n'en tient pas compte et il lui en coûtera la vie. Nous assistons à une énorme émotion quand Jacques accompagne le corps d'Enzo au plus profond. Jacques en revient en grande difficulté. Il a frôlé la mort et doit se mettre au repos. Une scène étrange s'ensuit. L'eau de la mer descend du plafond de sa chambre et nous assistons à la vie des dauphins dans leurs relations, leurs jeux. De superbes images, écoutez et imaginez. La fin du film est, vous pourriez vous en douter, la séparation de Johanna et Jacques. Mais je vous laisse la découvrir. Magnifique.
Go and see my love.
vous l'avez dit, la musique est d'une grande importance dans ce film. Et si vous vous décidez à le voir ou le revoir, vous conviendrez sans doute qu'elle l'emporte sur les dialogues. Alors, pour terminer cette émission, je vous partage un extrait du texte de Claire de Marignan, « La muse océane », paru dans « La terre est bleue », Atlas de la mer au XXIe siècle. Et si l'on devait compter la mer, si l'on devait l'imaginer, la rêver, une pléiade d'artistes s'y est déjà attelée, redessinant les contours des océans, y faisant surgir des mondes inconnus, dressant un miroir à l'âme humaine, y peignant aussi un espace de liberté. L'océan est un spectacle à voir, à lire, à écouter, à admirer, à vivre aussi. L'imagination n'a pas de limite, le rêve encore moins. Mais quel meilleur théâtre que la mer pour exploiter ce potentiel d'inspiration, vaste, méconnu, loin du monde et des hommes. La mer est l'espace idéal pour régner en maître absolu. Sous l'agitation des plumes et des pinceaux, et sous l'œil avisé des caméras, le pirate devient le modèle même de l'homme, qui n'écoute que l'appel du large et le souffle du vent, se libère de l'entrave des lois du monde. L'écumeur des mers, tuant les hommes avec délectation et pillant les navires sans vergogne, trouve une rédemption grâce à l'imagination débordante d'artistes en devenant un chasseur de trésors en quête d'épopées maritimes. Corto Maltese en est un versant moderne. Le gentilhomme de fortune véhicule, au gré du vent et des vagues, les valeurs de la mer. Légèreté, indépendance, goût de l'aventure et du grand large. Mais alors que le héros de Hugo Pratt recherche l'aventure, d'autres espèrent en fuir la compagnie des hommes. Le capitaine Nemo se dérobe aux yeux du monde terrestre, plongeant dans les abysses à bord de son gigantesque Nautilus. Patience et vengeance sont ses compagnes dans cette odyssée qui l'emmènera des tréfonds antarctiques aux îles les plus reculées du Pacifique pour plus de liberté, plus de quiétude, de paix. Espace de liberté, l'océan se dévoile donc surtout en modèle d'inspiration. Inspiration technologique, à l'instar de Nemo et de son sous-marin révolutionnaire. Inspiration médiatique, à l'image d'un Robinson Crusoe abandonné sur son île déserte. Et plus que tout, voyage, évasion. Car si sur les flots, l'illusion voisine avec la réalité, la frôle même, c'est pour mieux nous permettre de nous évader, de rêver à un monde sans entrave, loin des préceptes et des carcans sociaux, loin du tumulte de la terre. La voilà comptée, imaginée, rêvée, cette mer dangereuse et docile à la fois. Et elle a beau se parer de naufrages et de tempêtes pour effrayer même les plus téméraires, elle reste aussi l'espace de paix et de quiétude que recherchent les gens de mer, libres et aventureux. Une chose est sûre néanmoins, lorsque l'art et la fiction se mêlent aux embruns, la mer magnifique et cruelle garde toujours aux yeux des hommes son éternelle fascination.
Je regarde dans le lointain, jusqu'aux confins du monde. Et avant même la tombée du jour, déjà c'est la fin.